Bon, Christina, ici Alexandre Nicolas avec mon collègue André Dudemaine. Cette semaine, on va parler du film Soleil et Tikamek avec Louis Leriche, Jacques Niewiechowski puis Hashim Ottawa. Fait que, je vais commencer avec Chloé, si tu pourrais te traduire.
Salut, je m'appelle Chloé Leriche. Puis, dans le fond, j'ai écrit, réalisé, monté et produit Soleil à Tikamek. Et ben voilà, en gros. Mon premier long métrage, c'était Avant les rues. Je suis pas originaire de Manawan, je suis de Trois-Rivières. Voilà.
Voilà, en tout cas, déjà en territoire atikamekw.
Et Oshim, tu peux t'introduire?
Je m'appelle Oshim Ottawa. Je suis un des acteurs du film Soleil atikamekw. Pour moi, ça a été la première fois de participer à un film, à un long métrage.
L'Internet.
C'est bon.
Ouais, c'est la première fois pour moi de participer à un film, à un long métrage comme ça.
Jacques, ça marche de ton côté, m'a dit Akino, qui est présenté dans la zone.
Oh. Bon, mais
Ben.
on reviendra, Jacques, quand il sera parmi nous. Alors, bienvenue, Chloé, bienvenue, Hachem, sur la rue Adadegan. C'est notre. Et puis d'abord, félicitations, hein, Whistler, vous avez été le Oppenheimer du festival de Whistler, hein? Quatre prix, meilleure réalisation. Un prix aussi au Festival du Nouveau Cinéma, un prix également au Rendez-vous du Cinéma québécois. Je pense que ce film-là peut pas être projeté quelque part sans gagner un prix, on dirait. Alors, c'est très bon signe, bravo. Alors, félicitations pour tout ça. Puis, je pense qu'on peut déjà commencer, on le rappellera plusieurs fois en cours de route, mais rappelez que le film sort en salle très bientôt, hein.
5 avril.
OK, donc.
Quelques salles. On ne sait pas encore exactement ça va être quoi, toutes les salles de cinéma. On sait qu'on va être à Trois-Rivières, sans doute à Joliette. On va être à Montréal, au Cinéma Beaubien, à Québec, au CLAP. Puis on attend, là, ça se décide très tard dans le processus, mais je vous avouerai qu'on sait aussi que parce que le film est sous-titré, on n'aura pas beaucoup de salles de cinéma. C'est quelque chose de très triste, mais c'est ça la réalité, malheureusement.
Voilà, pendant ce temps-là, on dit qu'au Québec, on essaie de faire avancer les langues autochtones et tout d'un coup, un film tourné en Atikamekw est handicapé par le fait qu'il soit pas en français ou en anglais. C'est déjà un signe que la marginalisation continue malgré les beaux discours, ce qui ne nous étonnera pas. Alors, mais il y avait aussi dans le film très célèbre Jacques Néwaschich, on n'a plus besoin de présenter, mais on va quand même lui demander de se présenter.
Salut, Craig did not know. Jacques Néwaschich, ni Kadun, on me dashi et nous, on me dashi en Biochitan. Craig did not. Salut.
Oui.
Alors, on est prêt à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a une chose qui m'a étonné, c'est comment ce film, qui a quand même un thème assez explosif, n'a pas fait plus de bruit dans les médias. Hein, je sais que dans les milieux cinéphiliques, il a été immédiatement reconnu, les festivals l'ont accueilli, il se mérite des prix, mais je me souviens, moi, à l'époque, quand Arthur Lamotte avait sorti La conquête de l'Amérique, d'abord, le film avait été interdit, hein, l'ONF l'avait mis de côté parce que ça parlait justement de la mort d'Autochtones sur une rivière, là aussi dans des circonstances douteuses, c'est le moins qu'on puisse dire, et avec des suspects, avec une enquête qui avait été bâclée. Et tout de suite, quand le film a sorti, ben là, il y a eu tout un débat et une reprise, même il y a même eu une enquête publique qui a été reprise après. Et je m'attendais un peu à cette même réaction publique après un film aussi courageux qui va des événements peut-être anciens, mais quand même pas tant que ça. Et tout d'un coup, non, dans les médias d'actualité, je parle même pas de la presse culturelle ou cinématographique, mais il y a aussi des événements là qui devraient être traités comme une nouvelle. Et là, tout d'un coup, c'est silence. Non seulement radio, c'est silence radio, journal, télé. Comment expliquer ça? Moi,
je sais pas, André, mais ce que je peux dire, c'est qu'on est très tôt dans le processus parce que le film, il sort le 5 avril. Donc, on sait même pas encore dans quelle salle de cinéma on va être. Tu sais, quand vous avez fait la demande d'entrevue, vous êtes les premiers, en fait, qu'on voit. Puis, notre journée des médias, elle va être à la fin du mois, tu sais. Donc, je pense que c'est tôt pour se prononcer sur l'impact du film dans les médias parce qu'on n'a même pas encore commencé notre travail, là, véritablement. Puis, pendant le tournage, ben, tu sais, il y a quelques médias, des fois, qui vont parler du film pendant le tournage. Puis, je crois que les médias le relaient juste quand le film gagne des prix. Mais comme ça va être souvent dans un événement, dans un papier qui parle de plusieurs projets et tout. Fait que je sais pas encore si on peut dire ça. Peut-être que tu as raison, mais peut-être que j'aurais tendance à attendre encore un petit peu avant de me prononcer sur les raisons, du moins parce que je me dis on l'a pas encore lancé véritablement là.
D'accord. Alors donc, effectivement, avec l'effort de relations de presse qui va avec une sortie en salle, on peut espérer effectivement que l'effet dénonciation joue pleinement. Mais enfin, je permets-moi de rester dans mon état de bas parce que même sans, en tout cas, si c'est même en leur donnant une chance aux médias de se reprendre, reste que d'ores et déjà, le film est sorti dans plusieurs festivals qui ne sont pas des festivals marginaux, c'est vraiment des festivals qui sont sur l'avant-scène hein, de culturelle. Et ça aurait dû, à mon sens, en tout cas au moins, soulever une curiosité puis sortir des papiers là-dessus. Mais en tout cas, qu'importe, reste que dans la communauté, le film, lui, a eu son impact. Et là, j'aimerais peut-être entendre Jacques et Hochim. C'était pas un sujet facile. C'était une histoire ancienne, mais très douloureuse, qui était dans les tréfonds de la mémoire collective. Et tout d'un coup, on vous demande de ramener à l'avant-plan ces événements-là. Comment ça a été reçu, si bien par vous individuellement, autour de vous, dans la communauté?
Bon, merci Chloé d'avoir joué Marcel puis d'avoir participé à ce projet-là. Quand j'étais jeune, on avait entendu parler de cette tragédie, mais on était quand même loin, tu sais, Wimantashi, maintenant on n'avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là. C'est sûr que ça n'a pas eu le même impact chez nous dans la communauté qu'à Manoine. Là, je l'ai vécu, là. J'ai vécu, je dirais, par après, mais l'histoire, tu sais, vu que quand j'étais jeune, quand j'ai su ce qui s'était passé, c'était comme, OK, encore un autre drame, c'est tout, tu sais, j'avais pas vraiment de réflexion là-dessus. J'ai eu la chance de le vivre avec, justement, en jouant le personnage Marcel, de revivre ce qui s'était passé, ben là, je me suis rendu compte, là, qu'est-ce qui était arrivé vraiment, plus profondément. C'est sûr, ça m'a touché, ça m'a marqué, ça m'a bouleversé, ça m'a choqué. Il y a beaucoup d'émotions qui sont venues me toucher là-dessus. Puis de le fait d'avoir participé à ça, je pense que c'était de crier, de dire ce qui s'était passé dans le silence un peu dans ces années-là. Alors, moi, c'est comme ça que je l'interprète. J'ai joué le personnage pour pouvoir vivre ces moments-là, mais aussi pour pouvoir le diffuser, le parler de ce qui s'était passé à travers le film, là. Et les indices qu'on vivait à cette époque-là, puis qu'on vit encore aujourd'hui. Peut-être j'interprète trop vite, mais un peu comme tu disais tantôt, les journaux, tout ça, il n'y a pas beaucoup d'impact, comme dans le temps. Et puis c'est ça, tu sais, je vois encore qu'il y a encore du travail à faire là, pour qu'on puisse, tu sais, être vraiment écouté puis de nous sentir aussi. Alors c'est un peu je me sens comme ça là, tu sais, aujourd'hui là.
Je veux remarquer une chose aussi, hein, ton commentaire tantôt quand tu disais qu'il y a une autre tragédie qui s'est passée à Manoine. Mais on dirait qu'il y a comme quand la façon que tu l'as dit, tu avais comme un certain détachement par rapport à ça.
C'est ce que je voulais dire aussi, tu sais, parce qu'on était loin. On n'a pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Oui, ça nous touchait quand il y avait des décès, mais c'était loin, je dirais. Puis on était dans une époque, je dirais, un peu comme ce qui se passait là-bas. On était dans le mode de rêver, puis d'être endormi, puis dans le domaine, je dirais, social qu'on vivait. Moi, j'étais vraiment dans ce tourbillon-là de la vie, là, qui était beaucoup dans la consommation, etc. C'est sûr que ça nous touche quand des personnes décèdent, mais moi, j'étais dans une époque d'adolescent, puis ça, comme si ça avait pas, c'était pas venu me chercher, parce que je n'avais pas entendu parler tant que ça. Tu sais, pas à ma connaissance, là. Mais c'est là quand j'ai joué le rôle, puis on a fait le film, c'est là que, ben, avant aussi, quand Chloé a fait des rencontres avec les familles, tout ça, alors c'est là que j'ai vu l'impact qu'il y avait, puis ça, comme je faisais des réflexions, je me disais, pourquoi ça m'a pas venu aussi toucher, parce que oui, on était loin, on n'avait pas, tu sais, il fallait, les routes n'étaient pas aussi belles qu'aujourd'hui, des fois, il fallait prendre encore les moyens, le canot pour pouvoir aller dans les communautés, dans ces années-là. Puis je pense qu'on vivait des choses assez troublantes aussi, communautairement, ouais.
Il faut dire qu'à l'époque, c'est parce que moi, il y a des aînés qui m'en ont parlé. Il fut une époque où la mise en réserve là, a fait que les communautés étaient isolées les unes des autres complètement. Et c'est qu'on m'avait dit, par exemple, que quand les jeux interbandes, par exemple, un truc qui peut sembler anodin au commun des mortels, des tournois de hockey, ben comment ça a tout d'un coup rapproché les communautés qui avaient été coupées les unes des autres à l'intérieur des souvent d'une même nation, là, que ce soit les Innus, les Atikameks, les Algonquins. Alors donc, effectivement, à l'époque, on peut comprendre que ce qui arrivait à Manoan, ça touchait pas, ça arrivait pas. En tout cas, ça arrivait bien atténué à Waymon à l'époque. Mais faudrait Yoshim qu'on n'a pas entendu.
Moi, c'est d'un autre point de vue, parce que, tu sais, les événements ont lieu 20 ans avant ma naissance, puis je suis jeune, puis moi, j'ai pas vraiment entendu cette histoire. J'ai pas eu beaucoup d'informations à propos de cette histoire. C'est sûr que j'entendais seulement mes parents dire qu'il y avait eu cinq morts chez nous, mais pas plus d'informations que ça, là. Seulement à la réouverture du dossier en 2016. C'est seulement à ce moment-là que j'ai eu beaucoup plus d'informations, comme c'était quoi les circonstances, dans quelles circonstances il y a eu ces décès-là, puis tout ça. Un peu plus quand Chloé m'a invité à aller auditionner, puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler avec mes parents pour mieux comprendre c'était quoi l'histoire. Eux aussi, ils m'ont bien aidé à comprendre aussi tout ce qui s'était passé.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement, tes parents, quand t'as abordé la question? Comment ça s'est passé?
C'est sûr qu'ils m'ont parlé des jeunes qui ont... C'était quand même des jeunes qui sont décédés de... Ben, qui sont morts de cet événement. Mais ils m'ont parlé aussi que mon défunt grand-père, celui que Jacques joue dans le film, c'est lui aussi qui aidait la majorité du temps, mettons, pour d'autres raisons aussi. Il accompagnait le monde pour, mettons, traduire, faire la traduction pour des personnes qui sont pas capables de parler le français.
C'est interprète au baptiste, puis ouais. C'est ça.
Effectivement, ouais.
Mais il devait avoir aussi un rôle interprète, mais aussi pas seulement interprète au niveau de la langue, j'imagine. Il devait devoir aussi transmettre la parole plus profonde.
Hein. Mm. Il y a eu un rôle très important, en fait, le rôle qui est interprété par Jacques Noachiche. Sur ta question, j'aimerais y répondre aussi d'une autre façon, si c'est possible, André. C'est que moi, ce que j'ai trouvé particulier quand j'ai commencé mon projet, j'ai la première famille où je suis entrée, puis je leur ai dit, OK, pourriez-vous me parler de votre grand-mère, m'expliquer un peu qui elle était. Et puis, on était une vingtaine assis à table et tout le monde s'est tu quand j'ai prononcé son nom. Puis là, j'ai eu l'impression d'avoir dit quelque chose de pas correct. Puis on m'a dit, on ne parle pas d'elle à voix haute, on n'en parle pas depuis que c'est arrivé. Puis là, j'ai compris qu'il y avait eu un tabou qui s'était formé. C'est à la toute fin de mon processus de travail dans ce projet-là que j'ai compris aussi une autre partie de la problématique. C'est quand j'ai fait une des entrevues avec Mariette Nicoué, qui est une actrice du film. Puis Mariette m'expliquait, elle a dit, elle m'expliquait comment ça s'était passé à l'époque quand ça s'est produit. Puis elle dit, il faut expliquer qu'à l'époque, nous, on s'est fait dire par la religion, par les religieux, qu'il fallait se taire et pardonner. Fait qu'elles se sont retrouvées avec une situation où on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, dans quel contexte 5 personnes sont décédées et on nous demande de pardonner. Puis, elle dit, ça nous a, elle dit, c'est souvent le rapport à la religion qui nous avait appris à se taire dans ces événements-là, à ne pas en parler les uns avec les autres. Donc, tout se passait dans les familles, dans chacune des familles individuellement. C'était, en ce sens-là, le film n'est pas très juste, là. C'est-à-dire que nous, on expose les faits en groupe, alors qu'à l'époque, tout ça, ça s'est étouffé dans chacune des familles individuellement. Puis c'est, même, je te dirais que pendant le film, il y a eu des informations que j'ai eues qui provenaient d'une famille qui n'avait pas été transmise aux autres. Puis, il y a eu donc un travail sur la mémoire, la réappropriation de cette histoire-là qui s'est fait. Je pense que c'est beaucoup ce qui avait motivé les familles à embarquer dans le film. C'est qu'ils savaient que je faisais une enquête profonde. Puis, tu sais, moi, il y a des gens que j'ai interviewés à qui la police n'a jamais posé de questions. Là, ça, je le sais. Alors, il y a des questions que j'ai posées qui n'avaient jamais été posées avant. Puis, ça nous a permis, nous, d'avoir beaucoup plus d'informations. Puis, ça m'a permis, moi, ensuite, de les donner aux familles. Mais bref, je pense qu'il y a ça aussi, le côté religieux qui fait qu'on n'en parle pas dans les journaux à l'époque, hein. Il y a eu un article de journal seulement, puis il est sorti une semaine plus tard, puis à Montréal, c'était dans le petit journal, un tout petit article avec une photo, genre, tu sais, en plein milieu, là, page 35, puis c'est tout petit, puis ça dit juste 5 Indiens, 2 Blancs s'en sortent et 5 Indiens se noient. Puis, fait qu'il y a eu tout ça, tu sais, les journaux n'en parlent pas. Dans les familles, on est tellement bouleversés, puis le fait, quand personne n'en parle autour, puis c'est de ça que parle le film, en fait, quand personne n'en parle autour puis que la vie continue à avancer, tu as l'impression que ta vie vaut pas grand-chose puis tu t'enfermes. C'est un peu ça le processus là que j'ai compris qui a pu se produire dans chacune des familles. Tu sais, c'est tellement douloureux de vivre un événement comme ça, mais si en plus de ça, on n'en parle pas puis on fait comme si c'était normal puis qu'il n'y a pas d'enquête. Ben, je pense qu'il y a peut-être une enquête, mais combien de minutes a-t-elle duré? 3? J'ai aucune idée, là, mais ça n'a pas été traité correctement. Fait que ça aussi, tu sais, je pense qu'il affecte la manière dont ça a été reçu à l'époque.
Mais il faut dire que moi, tu sais, je suis de la même génération que mon ami Jacques Néwachiche, et je me souviens bien de cette époque-là. Et je vais te dire que le racisme ambiant dans la société canadienne et québécoise était tel que sur les sujets autochtones, on se fermait bien la gueule parce que c'était pas, même si on avait voulu pousser ou si on voulait pousser plus loin l'expression concernant la discrimination, les impacts du colonialisme, la marginalisation, on se faisait rabrouer tellement vite qu'on s'enfermait dans le silence là-dessus, effectivement. Et ça, indépendamment là, qu'il y ait eu un événement tragique ou non. Mais là, quand en plus se rajoutent des morts et que la religion met une chape de silence autour, c'est encore pire. Alors, d'où la question qui me vient à l'esprit, pourquoi avoir appelé ça « soleil atikamekw » alors qu'on est vraiment dans des événements plutôt sombres, non?
Ouais, c'est une bonne question. Puis pour y répondre, écoute, moi, j'ai commencé un processus de travail avec les familles qui étaient artistiques avant même de faire le tournage du film. J'ai commencé à faire des photos avec eux, moi et mon directeur photo, Glauco Bermudez. Donc, j'avais envie de faire une exposition photo où ils allaient être au cœur d'une œuvre d'art puis d'un sujet de parce que je voulais qu'ils comprennent bien l'ampleur. Tu sais, je voulais qu'ils sachent c'était quoi avant même que le film sorte en salle. Je voulais qu'ils sachent c'était quoi être au cœur d'une œuvre d'art, tout ce qui peut nous échapper dans le mouvement et tout, en tout cas, bref. Et c'est en faisant ces photos-là, j'ai appris donc à diriger des gens qui étaient des sujets documentaires, à les mettre en scène un petit peu. Et ça s'est fait très spontanément. Je me rappelle même pas à quel moment ça a commencé, mais on leur demandait. Je pense que j'avais à ce moment-là, dans mes recherches, je réalisais, tout le monde me parlait des prémonitions qu'ils avaient eues le matin même, la veille, de comment la nature leur avait parlé des événements. Puis ça m'avait beaucoup marqué, puis je voulais que ce soit présent dans le film d'une certaine manière. Je voulais que... Parce que quand je demandais comment tu as vécu ça, toi, le 26 juin 1977, ben là, il y a quelqu'un qui me disait, ben, alors moi, je me rappelle les huards ce matin-là, j'avais vu un vol d'huards, puis 5 huards plonger dans la rivière. Puis, tu sais, j'entendais ce genre d'histoire-là. Fait que quand je mettais en scène les familles, je leur demandais souvent de regarder le ciel pour interpréter la nature. Puis c'est devenu comme une espèce de motif dans le film. Le type de caméra en plongée, ces personnages-là qui regardent au loin. Et donc, il y avait un lien avec le soleil, toujours. Puis, c'est parti de là, tu sais. Puis ensuite, il y a eu comme tout un travail, donc, visuel qui s'est développé. Puis où la présence du soleil versus de l'ombre dans le film, il y a des choses qui sont parties après puis qui ont rendu ça peut-être plus subtil comme lien. Mais c'était un peu ça, là, mon point de départ, je te dirais. Puis pour moi, le soleil, quand il est devenu, quand c'était les soleils à Tikamek, c'était un peu... Je sais pas, on m'a raconté des histoires sur leur présence aussi autour de la présence, je te parle des 5 disparus pendant qu'on faisait le film, des choses comme ça. Et j'avais envie de faire écho à ça de manière poétique plutôt que d'avoir un... Je sais pas, j'avais envie de garder de toute façon cet esprit-là, là, tu sais, c'est très... J'explique pas tout dans vie, là, tu sais, puis j'accepte les choses qui m'échappent, mais voilà. Si je veux chercher l'explication, ça vient de ce travail-là. Puis là, tant qu'à en parler, ben l'exposition photo, elle aurait dû sortir plus tôt, normalement. Mais là, avec la pandémie, tout a pris des proportions. Puis là, ça va être juste quelques jours avant. Je voulais que ce soit avant le film. Mais ça va être notre vernissage le 3 avril à la galerie de l'UQTR à Trois-Rivières, où Jacques est présentement, d'ailleurs. Puis donc, on va faire une grosse sortie avec plein de monde de Manawan, puis ils vont voir les portraits en grand format sur les murs d'une galerie juste avant la sortie du film.
Bon, alors donc, déjà un autre élément à bien prendre en note, c'est l'exposition photo. Tu as dit à la galerie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, si j'ai bien compris.
Ben, Rivière 3.
Parfait. Alors donc, là où Jacques Néwassouché, c'est comme chez lui. Alors, donc, ça doit être une bonne galerie.
Oui, mais je ne suis pas souvent chez nous, alors.
Ah ben toi, un nomade comme toi, c'est pas étonnant. Mais j'aimerais vous entendre, Hachim et Jacques aussi, sur est-ce que vous vous reconnaissez avec ce pichum, ce soleil, ou ces soleils au pluriel, le Tikamek. Quand vous regardez réplication, quand vous considérez votre réplication dans le film?
Bissime, oui. Ben, je pense que le soleil, il est là pour nous réchauffer, etc. C'est sûr que si on le regarde trop, hein, il nous aveugle, bien sûr. Alors, c'est ce qui arrive de l'autre côté, c'est qu'il nous regarde, notre soleil. Ben, il ne nous voit pas, c'est sûr, là, mais en tout cas, c'est pour ça qu'ils mettent des lunettes de soleil. Alors. Mais je voudrais dire oui, c'est parce qu'on est quand même un peuple qui est, quand on vit des deuils, on le vit à 100%, hein, tu sais, puis on s'enferme dedans aussi.
C'est cérémoniel, hein. Quasiment.
Oui, on s'enferme, tu sais, individuellement, on est avec la famille, etc., ceux qui le vivent, mais on s'enferme dans ça. Une fois que c'est passé, c'est comme si la vie continue. Tu sais, le soleil est encore là, il est présent. On vit notre deuil, c'est sûr, qui nous rattrape peut-être le soir. Mais dans la journée, on est là, puis on essaie de rayonner en tant qu'individu, en tant que communauté, en tant que nation. Tu sais. C'est comme ça que moi, je l'interprète, là, ouais.
Sans oublier aussi que la nature, c'est jouer un grand rôle, mettons, pour des, si on vit des deuils, c'est, on a plus tendance à aller vers la nature pour mettre mieux vivre certains épisodes de notre vie. Hein.
Je t'avoue que c'est un titre qui est difficile à prononcer partout où on le présente à l'international. Les gens sont comme « Attica! » Mais pour moi, je trouvais le plus intéressant que c'est, parce que ça n'a pas été titre de travail au départ. Après ça, c'était Manawan 1977. Puis quand c'est revenu, je me suis dit « Ah, c'est quand même chouette, c'est en langue atikamekw, d'avoir le mot atikamekw dans le titre. » Pour moi, il y avait quelque chose d'important aussi, tu sais, parce que, voilà.
Oui, c'est vrai. C'est comme mettre la lumière, le soleil dans ce drame qui est arrivé à travers les images. Ouais, qui nous rappelle ça, mais tu sais, ouais, notre, c'est sûr qu'une fois qu'on le voit, on est encore plus marqué parce qu'on l'a pas vécu, on était loin. Je parle de ceux qui habitaient les autres communautés. Puis là, le fait de le voir bientôt, pour certaines personnes qui ont jamais peut-être entendu parler, ça va mettre en lumière ce qui est arrivé là. Ouais, ça va toucher beaucoup de personnes qui vont se rappeler peut-être même. J'aurais aimé ça discuter avec mes parents de ça, voir s'ils s'en souvenaient, etc. Mais je pense que je vais le faire. Mais que je rencontre des aînés, voir s'ils se rappellent de cet événement-là. Ceux de chez moi de Wemontashi. J'aimerais ça savoir un petit peu plus de ce côté-là, comment est-ce qu'eux se souviennent de ça. Ouais.
Ouais, je trouve intéressant, là, une parenthèse, mais effectivement, Jacques, j'aime bien quand tu parles du soleil, tu rappelles effectivement la vision autochtone du soleil qui n'est pas la vision occidentale où tout est beau, rayonnant quand on parle de soleil. Dans les traditions autochtones, on le sait, on a un deal avec le soleil, on a un marché avec le soleil parce qu'il allait tout nous brûler. Hein? Et finalement, il a accepté de se coucher de temps en temps et de pas donner toute sa puissance pour devenir une force bénéfique. Mais cela dit, déjà, hein, la menace de la couche d'ozone qui a été nommée plus tard, était déjà d'une certaine façon présente dans le mythe, puisque le soleil est aussi vu dans les traditions autochtones comme étant une puissance qui peut devenir très destructrice, très maléfique, comme le feu d'ailleurs auquel il est lié. Et il y a cet aspect-là qui est très particulier. Mais j'imagine dans le titre du film, on peut aussi y voir l'idée d'une sorte de renaissance, une fois qu'on a, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai l'interprété, c'est que après avoir passé toute cette période de deuil et finalement après avoir nommé les choses, le jour revient, quoi, la vie continue, puis on peut, cette fois-là, profiter vraiment du soleil, puisqu'on a fait justement de la lumière sur ce qui avait été refoulé, qui avait été enfoui dans l'ombre d'un inconscient collectif.
Puis aussi dans le film, la lumière a une place particulière. Il faut se souvenir qu'il y a plein de moments où on voit la lumière s'animer, puis c'est mystique là aussi. Il y a quelque chose là où qui est super important puis qui est présent dans le film. On sent que les tu sais, dans la culture atikamekw, les trois jours suivant la mort d'une personne, cette personne reste autour avec nous. Puis ça, je voulais le montrer dans le film. C'est subtilement, là, mais je voulais quand même que ce soit présent. Il y avait ce lien-là aussi qui est super important. Puis je dois vous avouer que moi, les cérémonies de deuil, je suis contente que tu en aies parlé tantôt, Jacques, là, mais les cérémonies de deuil atikamekw, elles m'ont fait énormément de bien, puis elles m'ont ramené à quelque chose que je trouvais essentiel comme humaine. Là. J'ai toujours, quand j'ai perdu des gens, moi j'ai perdu mon père très jeune, puis un plusieurs années plus tard, ma grand-mère, mais tu sais, comme quand tu te ramasses dans un salon d'exposition, et puis le maquillage sur la personne, le remodelage de son visage, tous ces éléments-là, les petits sandwichs pas de croûte à droite, puis la musique qui te déconnecte de tes émotions. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec cet environnement-là. Puis quand j'étais à Manawan, puis que j'entrais dans les maisons, puis qu'il y avait de la vie autour des départs, des enfants qui courent partout, des gens qui chantent jour et nuit, qui allument un feu, qui allument des chandelles, qui sont tous ensemble, qui mangent, je me dis, mais c'est ça la vie, elle est là la vie. Là. Pour moi, c'était une révélation. Puis les rituels de deuil m'ont beaucoup, je ne sais pas, ça a été un de mes premiers ancrages. C'est là où je me suis dit, oh mon Dieu, que j'aimerais ça, moi, rester ici. Il y a quelque chose là qui me faisait énormément de bien. Je trouvais que le sens de la communauté, dans ces moments-là, tu le ressens de manière très vive, très forte. Puis je trouve que c'est une grande beauté de la culture atikamekw.
Mais il faut dire que même dans les cultures occidentales, c'est récent, cette formalisation du rituel de deuil au travers une business, hein, c'est une grosse business, les pompes funèbres maintenant. Il y a des gens qui en profitent bien. Hein, et c'est aussi une coupure avec un... Parce que la mort fait aussi partie de la vie, du grand cercle de la vie. Hein, il y a mort et naissance sont liés. Et effectivement, dans toutes les traditions, il y a une proximité avec la mort. Moi, je sais, mais du côté québécois, là, on m'a raconté des histoires à l'époque où les gens étaient exposés dans des maisons aussi. Puis on veillait les morts. On les laissait pas jamais. Il y a toujours quelqu'un qui devait être là, agenouillé devant le cadavre jusqu'à son inhumation. On pouvait pas laisser le mort tout seul. Alors que là, à 10 heures, les sandwichs sont finis, on barre le salon funéraire, puis bonsoir et à demain. C'est tout. Il y a quelque chose là qui est effectivement perdu dans le...
Je me rappelle d'un film, Mon oncle Antoine. Ça me rappelle tout le temps cette scène-là. C'est là que je voyais aussi la façon que les Québécois, tu sais, faisaient la cérémonie, le deuil avec la mort. Tu sais. Ce film-là m'a marqué, moi, ce passage-là. Là. Puis, parce que peut-être c'est ce qu'on vit encore, c'est ce qu'on fait encore chez nous, tu sais. C'est fort, là, très fort.
Oui, surtout que quand on fait, tu sais, je pense que c'est, pour moi, c'est mon ancrage que j'ai eu en restant en ville, c'est les funérailles, parce que quand il y avait un décès, ben, j'allais à Manawan. Je passais les 3 jours à Manawan, puis je passais les nuits. C'est souvent durant la nuit qu'il se passe des choses intéressantes, les discussions intéressantes de Samos, là, les anecdotes, puis c'est comme un peu un genre de récapitulation de la vie de la personne qui est décédée, là.
Dans le film, d'ailleurs, il y a une scène, ça devait être ça, justement, de la nuit. Mais tu sais, bon, on a tourné en pleine pandémie, ça a complexifié beaucoup, beaucoup le tournage. Mais c'est pour ça qu'il y a eu jusqu'à une guitare électrique autour d'un cercueil, tu sais. C'était pour monter, parce que normalement, il y avait d'autres scènes qui ont été coupées au montage, mais avec les jeunes autour des gens qui sont partis, tu sais, puis ça, c'est une scène. Mais je me disais, ça va jusque-là, tu sais, je voulais montrer ça justement, comment dans la nuit. Parce qu'on a besoin de ce contact-là, hein, quand quelqu'un part autour de nous, justement, ça peut pas se passer juste entre 11h et 14h au salon funéraire. Il faut que tu passes du temps avec le corps aussi, puis parce que c'est pas là en 2 minutes que tu t'en vas, tu fais la file, puis tu arrives devant quelqu'un, puis tu sais ce que tu vas dire. Et, tu sais, ce temps-là est essentiel, hein, enfin.
Oui, parlant de guitare, Hochim, je sais que t'es aussi musicien. Est-ce que cette idée de la musique, est-ce qu'on n'aurait pas pu appeler ça, je sais pas moi, harmonie atikamekw, faire un accord avec la musique qui, où là aussi elle est présente dans le film, mais aussi dans la survie de la culture atikamekw, comment le chant, la guitare, la musique a été importante. T'es un peu dans cette lignée-là. Est-ce que tu sens que ça a été bien repris avec le film?
Ben oui, c'est sûr. T'sais, la musique est beaucoup présente dans nos vies. C'est, même si on n'est pas musicien, la musique est là. Ouais. Mais pour rappeler aussi, je sais que vous avez parlé tantôt de feu, tout ça, le soleil. et de funérailles aussi. C'est comme mentionné tantôt, Alexandre, on passe 3 jours avec le corps. Tu sais, on fait un feu, puis ça se rejoint. Le film se rejoint aussi dans ce contexte-là. Là. C'est le feu est très, très, très important parce que c'est comme la façon aussi dont on peut communiquer aussi avec les morts, mettons pour... C'est, dans la culture, on met aussi la nourriture pour justement faire l'impression qu'on donne à manger aux défunts. Mais oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Si à chaque fois qu'on fait un soupe, ben, quand on va au funérailles, t'as comme la maison du défunt où est-ce qu'on va faire le. On va exposer le corps là, parce qu'on n'a pas de centre funéraire à Manoan. Puis généralement, c'est le voisinage, c'est un des voisins qui va accueillir les gens pour manger, faire à manger. Puis il y a toujours un feu sacré dans la maison, en arrière de la maison, pour s'occuper, genre comme on dit, un feu sacré. Fait que c'est là qu'on utilise pour nourrir le défunt. Donc à chaque fois qu'on mange, bien, tu partages une partie de ton assiette. Fait que tu mets 2 cuillères, 3 cuillères de ta bouffe préférée, puis tu vas le partager au défunt. Puis vers la fin du souper, mais c'est là qu'on va le mettre au feu pour que la nourriture aille au ciel. Puis que notre défunt puisse partager la nourriture avec nous.
André, c'est quand même, il faut le voir, il faut le vivre, là, en quelque sorte, parce que, comme tu dis, c'est chez le voisin qu'on fait à manger. Attends, là, la maison où il y a le défunt, elle est vidée, hein, parce que tout le premier étage, on met des chaises partout, les gens, ça devient comme l'espace habité par la famille, puis donc le premier étage n'est pas totalement vidé, mais il y a une partie. Puis chez le voisin, il y a 10 personnes dans la cuisine là, du jour au lendemain. Puis tu sais, c'est pas une question qui se pose. C'est pas « Oh non, moi, ça ne me donne pas en fin de semaine. » C'est toujours la maison qui va accueillir. Puis c'est normal pour eux. Puis fait que ça fait qu'en arrière, les deux maisons sont liées. Ça crée un grand espace. Puis on a aussi fait ça dans la direction artistique du film. Je me rappelle avec Julie Christina Pichet, qui est une Atikamekw de Montagny. C'est sa première direction artistique, elle était scénographe, elle est scénographe aussi, elle a travaillé beaucoup avec Andinot. Et on a sorti les meubles des maisons, tu sais, subtilement dans les décors, après les décès, les décors des maisons changent, puis on a commencé à sortir des meubles, enlever des éléments sur les murs pour un peu représenter le vide, puis ce moment-là où on vidait les maisons après... Pour les funérailles. Donc, on a joué un petit peu poétiquement avec ces éléments-là dans le film.
C'est pour connaître les équipes de tournage quand les budgets sont serrés. Là, c'est des films à petit budget. Il faut tourner vite, puis il faut que ça procède vite. Vider les meubles, là, ça a pas, c'est anecdotique, mais quand même intéressant. Ça a pas, les gens n'ont pas toujours trouvé ça facile, j'imagine.
Ce qui est très drôle aussi, c'est que c'est toutes des meubles qui venaient de chez nous, presque, dans le film. moi, j'ai ramassé plein de trucs, puis tu sais, on n'a pas des gros budgets, mais la raison pour laquelle je m'autoproduis, c'est aussi beaucoup pour pouvoir garder une partie des frais d'administration qui reviennent normalement aux boîtes de production, qui sont comme des grosses boîtes avec beaucoup de monde. Puis nous, moi, en fait, tu sais, j'ai pas une grosse boîte, j'étais avec les films de l'autre, puis c'est 2-3 personnes au bureau, là. Et donc, je garde les frais d'administration pour qu'on ait plus de temps de tournage. Fait que, tu sais, nous, on a eu quand même je pense qu'on a eu 36 jours de tournage, ce qui est très bien. Il y a beaucoup de films québécois qui sont tournés pour le même budget en 20-22 jours. Mais nous, ça nous donnait du temps pour pouvoir travailler, puis pas tout le temps être justement trop pressé par le temps. Ça reste que on rentrait juste parce que j'avais 144 films, scénarios, c'est un très gros défi là, qu'on a réussi à relever. Là, t'sais. On a amené un cheval à Manoan. Ça, c'est... Les gens ne revenaient pas. Là, t'sais. Il y avait un cheval, carrément.
Non, on ne l'a pas mangé. Hein, on l'a pas mangé.
Oh, il était magnifique. Mais c'est ça. T'sais, c'était un gros tournage complexe quand même. Là, mais ouais.
Sans oublier aussi que les acteurs, c'était pas des acteurs professionnels. Là, c'était plus des acteurs... pour la première fois participer à un film.
Ouais, ça m'a surpris la diversité des gens. Moi, je m'attendais genre qu'il va y avoir plein d'Atikamekw de Manoan qui vont jouer. Mais non, t'as des Atikamekw de Wemont puis d'Obidjouane qui sont là, puis même des gens qui restent en ville, qui n'ont jamais vraiment vécu en communauté. Il y avait combien de personnes qui ont auditionné pour le film?
Pas beaucoup, honnêtement. Hein. C'est ça, des fois, faire du casting, ça a été des années de travail. Puis, c'est ça. Puis moi, pour moi, ce qui est important, c'est que le jeu soit bon. Il y avait, c'est sûr que j'ai choisi des gens qui étaient... J'étais contente quand il y avait un lien avec les familles, mais je voulais pas qu'il y ait un lien direct avec les familles. Tu sais, j'aurais pas demandé à Carl David Ottawa, qui est le fils du personnage interprété par Jacques, j'aurais pas demandé de jouer le rôle de son père, mais de demander de jouer le rôle de son voisin, je trouvais que ça faisait beaucoup de sens. Tu sais, je voulais pas que ce soit donc une douleur trop près, mais en même temps, c'était intéressant parce que des fois, ça sautait une génération, le lien familial. Mais c'est important de garder pour moi parce que ça permettait aux familles de parler ensemble à la petite fille, d'aller voir sa grand-mère, puis de dire « Parle-moi de ton frère, comment il était, peux-tu m'expliquer comment ça s'est passé? » Parce que je trouvais ça intéressant que ça délie la parole. Tu sais, je pense que Oshim, t'as fait la même chose, t'es allé voir ta mère quand t'as su que t'avais le rôle, t'as commencé à en parler un peu plus. Puis ça, c'est important, là, tu sais. Mais effectivement, il y avait des acteurs des trois communautés parce que je suis allée chercher, donc j'essayais de recréer des familles qui se tenaient, puis il y avait plein de considérations. Je voulais pas juste nécessairement prendre du monde de Manawan, mais aussi, on a eu de la difficulté à avoir de la figuration à Manawan. Il faut se souvenir que les gens, souvent, tu sais, t'as beau leur dire, venez-vous-en, c'est demain, on s'en va faire. Les gens ont pas l'habitude de faire ce type de travail-là. Ils ont pas l'impression qu'ils sont capables. Déjà, tu sais, il faut les convaincre, leur dire que c'est quelque chose qui se fait, mais c'est une barrière, je te dirais. Les figurants, je me rappelle dans certaines scènes, au début, quand je leur disais, OK, vous marchez de droite à gauche dans le plan, ils marchaient comme des robots. Tout le monde était mal à l'aise, ils bougeaient comme s'ils voulaient pas se déranger, puis, tu sais, c'était pas naturel. C'était pas des figurants professionnels, là, si on veut. Mais je sais pas, je sais juste que des fois, on essayait d'aller chercher des gens, puis ils disaient, ben, non, moi, je m'en vais dans le bois, genre, tout ça me tente pas de travailler. Puis c'était comme, ben OK, qu'est-ce que tu veux? Ciao! Bonne journée!
Ça, c'est Jacques Mewashish, je suis sûr.
Non.
Non. Mais pour mon rôle, là, j'étais contente de le jouer parce que je l'ai connu, moi, Marcel, là, David. C'est de la famille côté de ma mère, qui vient de Manoine, d'ailleurs. Et puis, en tout cas, les autres acteurs, ils m'ont surpris de leur jeu, etc. Quand j'ai vu le film encore plus, j'ai dit « wow ». En tout cas, ils sont devenus de jour au lendemain des acteurs. Je parle pour toi aussi, Oshim. Félicitations, bravo.
Ben oui, bravo. Ouais. J'ai pas été retenu pour l'audition parce que je pense que, Chloé, toi, tu voulais tout le monde, toutes les Atikamekw, là. Même si moi, je peux m'impliquer d'une façon, tu veux que j'auditionne pareil, même si je ne suis pas acteur.
Le plus possible. Je voulais aller chercher le talent brut là où il était. Mais Oshim, effectivement, t'as fait un travail énorme dans le film. Ta qualité de jeu, elle est exceptionnelle. Mais je me souviendrai, Jacques, je sais pas si t'étais là. Il me semble que t'étais là la première fin de semaine quand on a eu juste une fin de semaine de travail avec les acteurs. À cause de la pandémie, on pouvait pas avoir des répétitions. Tout était compliqué. Et puis
comment elle s'appelait, celle qui t'a donné la formation?
Oui, elle s'appelle Louise. Ah mon Dieu, j'ai un blanc. J'ai son email en tête. C'est la femme à... Voyons, Louise, là, je la cherche parce qu'elle nous a énormément aidés.
Oui. Oui, ça fait deux fois, hein. Tu l'avais aussi dans Soleil à Tikamek.
Oui, c'est la femme de...
Soleil à Tikamek, mais avant les rues, elle était là aussi.
Très aide-moi, c'est la femme de Gaston Lepage.
Louise.
Madame Lepage?
Non, mais elle est formidable.
Alors, elle était comme répétitrice.
Ah oui.
Louise Leparé.
C'était, donc, elle nous a aidés parce qu'elle a fait beaucoup de direction d'acteurs avec les enfants et tout, est habituée. Puis, on a vraiment travaillé avec elle pendant une fin de semaine. Elle nous a aidés. Elle nous avait aidés aussi pour avoir les rues. Puis, c'est beaucoup sa technique qui m'a inspiré la direction d'acteurs du film. Sa technique, puis celle aussi de Joe et Jim, de, voyons, Guy Favreau. Non, c'est pas Guy.
Truffaut.
Non. Mon Dieu, je suis pas bonne aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Mais bref, on avait eu une fin de semaine. Puis je voulais juste dire que Oshim, dans cet atelier-là, tout de suite, il s'est révélé être extraordinaire. On le voyait déjà qu'il était capable de jouer. Tu sais, je suis allée chercher des gens que j'ai mis... Dès l'audition, on était capable de voir que c'est des gens qui allaient continuer à travailler comme acteur après, avoir des prix peut-être au niveau de l'interprétation, parce que le travail des acteurs est exceptionnel dans le film. Ils sont tous bons, tous. Puis il y en a beaucoup, là. C'est pas deux personnages, là, c'est 15 personnages.
Ouais. Ce que j'ai aimé d'Oshim aussi, c'est qu'il a intégré l'humour dans le film, alors que c'est pas évident à traduire en Atikamek. J'ai reconnu l'humour Atikamek quand, mettons, m'a amené, je sais pas si tu peux dire, dans le début du film, là, il se réveille puis il dit « Je suis content que mes chaussures sont pas parties. » Ben ça, il l'a dit en Atikamek, je suis comme « Oh, ça se dit tellement bien, ça. »
C'était drôle,
celle-là.
Alors, Hachim, est-ce que tu te sens prêt maintenant pour devenir un acteur accompli comme Jacques Nevoisich l'est devenu?
Ben, après le tournage du film, j'ai quand même eu quelques auditions à passer. Notamment, il y a eu, on a participé à un projet, moi et Jacques, je pense que c'était à l'été 2022, je pense. Un court-métrage, puis moi, ouais, c'est ça. J'attends toujours des invitations. Si je suis intéressé à participer à d'autres projets. Là.
C'est sûr que ça va venir après le film. Puis je les ai mis en contact avec une agence artistique. On a fait leur photo casting. Ben là, Hachim, t'as manqué de ce jour-là.
Oui, ce jour-là, je n'étais pas là.
Mais tu sais, je travaille très fort pour les accompagner pendant leur vibu, là. C'est important pour moi. Puis ils sont vraiment bons. Puis je suis sûre d'avoir d'autres rôles, mais il faut attendre que le film soit vu, tu sais.
Mm-hmm. Oui, effectivement. Et c'est bien aussi parce que quand, tu sais, souvent, ben, on a vécu beaucoup ces discussions-là. Pourquoi des acteurs autochtones? Un bon acteur est capable de jouer un autochtone. Mais c'est que l'image qui a été donnée des Autochtones est tellement réductrice qu'il faut des acteurs autochtones pour rectifier cette image qui a été intégrée, y compris par des acteurs qui sont peut-être bien versatiles, capables de jouer bien des rôles, mais qui sont incapables de concevoir, parce qu'ils ne l'ont pas vu, toute la palette d'humanité très large qu'on retrouve dans nos nations. Et c'est trop souvent des images stéréotypées qui vont naturellement, avec triple guillemet, naturellement être amenées par un comédien qui n'est pas d'une nation autochtone, d'où cette importance. Et là, effectivement, il y a là un travail au-delà du film immédiat qui est important pour en termes de progrès pour l'art cinématographique en général.
Puis ça fait pas le même genre de film, tu sais. Les gens les Québécois qui voient Soleil Atikamekw sont impressionnés parce qu'ils sont au cœur d'une communauté. Tous ces visages-là peuplent le film d'une belle manière, de grande manière, tu sais. Hier, j'avais quelqu'un qui m'aidait à faire le montage d'une vidéo promotionnelle, puis il me disait, oh mon Dieu, ils sont tous très Atikamekw, hein. Ben oui, c'est des Atikamekw, c'est. Puis les gens, je me rappelle même au début, dans le temps d'avoir les rues, il y avait des gens qui disaient, ah, oh, ils ont les cheveux frisés des fois. Ben oui. Tu sais, où il y avait cette image-là, tu sais, de l'Autochtone toujours qui est la même espèce de visage, alors qu'il y a une diversité dans les regards, dans les visages, dans les corps, qui est importante. Ouais. Puis tu sais, pour moi, ça c'est important, tu sais, que l'écran soit leur appartienne.
Ça a été beaucoup aussi pour le Wapikoni, hein, pour lequel tu as travaillé d'ailleurs, Chloé. C'est effectivement quand les gens, surtout au début, qui voyaient des films du Wapikoni, tout d'un coup, ils voyaient une jeunesse autochtone qui s'exprimait, puis tout d'un coup, ils découvraient effectivement tout un univers, et notamment avec son expression faciale, corporelle, ses décors, qui était complètement inédit dans ce qu'on pouvait voir sur les écrans. Mais ça, c'est assez formidable que ces dernières années, on ait pu justement arriver, d'une part, à créer des carrières chez les Autochtones, puis d'autre part, à briser cette image unidimensionnelle, puis faussée,
ouais,
qui était ancrée dans le public.
Moi, je vais t'avouer que j'ai fait pas mal de casting. Après, avant les rues, là, j'en ai fait quelques-uns, puis pour très peu de sous, là, tu sais, c'était vraiment parce que je me disais, ça, je veux juste aider cette espèce de changement-là. J'ai rempli des banques de noms pour des gens qui engageaient des figurants autochtones, mais qui étaient non autochtones. J'ai fait énormément d'heures pour ça. C'était quelque chose que je trouvais essentiel. Puis je pense que là, c'est bien lancé, tu sais. Puis je dis moi, mais je suis pas toute seule, là, tu sais. Je l'ai fait une fois avec Myriam Véro, qui était venue me chercher pour Hochelaga, après ça pour Fugueuse, tu sais, pour juste comme, ben c'est ça, donner des opportunités de travail aussi, tu sais. Puis maintenant, là, je pense que la télé québécoise, elle a cette ouverture-là. Tu sais, on voit Katia Rock qui tient des grands rôles. Il y en a plein, là. C'est magnifique. Un changement imposé, là.
En effet, je vais ouvrir une parenthèse qui... Mais importante quand même, on a publié hier un communiqué. Le récemment, cinéaste bolivien qui s'appelle Jorge Sanrines, qui, dans les années 70, là on est loin derrière, a été le premier à tourner des films en langue aymara et en langue quechua, qui avait jamais été porté à l'écran avec des acteurs autochtones, effectivement. Et il vient de recevoir l'ordre du Condor de los Andes, la plus haute distinction accordée par l'État plurinational de Bolivie. Donc, le président HC a remis cette médaille, cet honneur à Jorge Sanrines, qui est venu présenter ses films à présence autochtone à deux reprises. Donc, là aussi, on peut voir qu'un cinéaste qui a lui aussi bûché fort pour faire ses premiers films, qui, à l'époque, a dû s'exiler parce que sa vie était en danger au moment où les dictatures militaires avaient pris le pouvoir en Bolivie, que maintenant, ben, son pays l'est reconnu et son œuvre fait maintenant partie du patrimoine. Alors, là aussi, on peut voir que un précurseur, là-bas aussi, est maintenant reconnu et je trouve intéressant d'en parler parce que je trouve qu'il y a un parallèle malgré la distance de temps et de géographie, il y a quand même un parallèle entre ton travail et celui de Jorge là-bas en Amérique du Sud et aussi un horizon qui se dégage maintenant où on peut voir que tous ces efforts-là portent fruit et vont nous amener plus loin. Alors ça, c'est important.
Important, puis on le souhaite parce que, tu sais, jusqu'à très récemment, il y a encore des gens qui sont assassinés sur leur terre, tous les Autochtones qui luttent au Pérou, au Chili, un peu partout en Amérique du Sud. La situation, elle est très grave, fait que ça m'étonne une reconnaissance comme ça, justement, dont c'est un grand pas en avant, mais il y a énormément de travail à faire là-bas, là, tu sais, c'est quelque chose, là, c'est très difficile, puis c'est une des raisons pour lesquelles le film, André, je tiens à le dire. Après, avant les rues, on avait fait une grosse tournée dans différents festivals à l'international, puis je voyais que les portes étaient grandes ouvertes pour un prochain film. Je me disais, on a réussi à ouvrir beaucoup de portes, puis si on en fait un autre, puis qu'on essaie d'amener un sujet comme ça plus loin, je sentais qu'il y aurait plus de visibilité. Je dis ça parce que j'avais réalisé justement que dans ces peuples-là, notamment en Amérique du Sud, ils n'ont pas de moyens pour faire du cinéma, ils n'ont pas de moyens pour s'exprimer. Puis notre film, le sujet de notre film, fait écho. Ici, quand on a commencé à travailler sur Soleil Atikamekw, il y a certaines personnes qui me disaient « Oui, mais ça fait 40 ans, tu sais, le sujet, maintenant ça va mieux. » Puis on a su, avec ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan, que c'est encore un sujet d'actualité.
Ah, oui, absolument.
C'est la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, là, ils sont très loin de la réconciliation. Ils ne sont pas rendus là du tout. En Amérique du Sud, pire encore. Donc, notre film, il est... La manière dont on en a parlé, même si ça se passe en 70, puis avec tout le recul que ça donne, parce qu'il y a des extraits documentaires, des gens, des familles qui expliquent ce qu'ils ont vécu au fil du temps, notre film peut faire écho dans ces pays-là. Je trouve juste ça difficile parce que j'ai pas encore de distributeur international pour m'aider à l'amener jusque-là. Malheureusement, il y a un contexte au niveau du cinéma actuellement qui rend ça difficile. On a de la misère à avoir des salles de cinéma, on a de la misère à avoir de la distribution à l'international, on a très peu de budget pour distribuer nos films. Ça, c'est très difficile, tu sais. Mais je trouvais que le film avait cette importance-là aussi parce qu'il va pouvoir aider des luttes. T'sais, on a ici des moyens puis une liberté de parole qu'eux n'ont pas. Fait que j'étais contente de pouvoir la prendre avec les familles pour pouvoir donner cet outil-là aux gens qui sont en Amérique du Sud, aux Autochtones qui sont au Venezuela, qui sont à Taïwan, qui sont ailleurs où la situation est différente.
Je me souviens, j'avais été invité, bon, c'était via la boîte aux Juifs, à l'Université de São Paulo, un colloque justement sur le cinéma autochtone. Et il y avait des cinéastes autochtones brésiliens, parce qu'il y a quand même des initiatives là-bas aussi, un peu proche, un peu de la manière du Wapikoni, de donner la caméra des Autochtones pour qu'ils filment leur propre réalité. Et j'avais amené le film « Le chemin rouge » de Thérèse Ottawa que j'avais montré. Et puis, il n'était pas sous-titré en portugais. Et donc, on l'a présenté et il y avait des Guaranis, il y avait des, comment ils s'appellent, enfin, les nations autochtones de là-bas, plusieurs. Et les gens sont venus voir après, ils ont dit, en voyant ce film-là, même si on comprenait pas toutes les paroles, on a vu que nous sommes les mêmes. Donc, effectivement, ça crée non seulement des liens, mais une familiarité. Les gens se reconnaissent dans ces films-là. Et à propos de l'amélioration des situations, j'étais fier d'avoir répliqué ça. Édouard Néné, en Bretagne, il y a eu le festival annuel et c'était le thème cette année, c'était les Nations d'Amérique. Les Premières Nations d'Amérique et Alanis qui avait été là parmi les tout premiers festivals de Douarnenez, il y a 46, 45 ans, je me souviens plus, était là encore cette année à présenter des films. C'était assez magnifique. Et j'étais dans une table ronde et une journaliste française, un peu baveuse, m'avait dit, ouais, mais vous devez admettre que les choses se sont améliorées. Et j'ai répliqué non. Les choses ne se sont pas améliorées. Par notre militantisme, notre implication, nos efforts, nos luttes, on a fait changer des choses. C'est ça qu'il faut dire. Pas dire que les choses s'améliorent comme si ça venait de l'extérieur et que ça nous tombait comme une grâce venue du ciel. C'est pas comme ça que les choses avancent. Mais parlant du futur, Jacques, t'as toujours des projets artistiques, alors on peut profiter du moment, on te recevra un autre moment pour parler plus spécifiquement de toi et de tes travaux, parce que là, il y en aurait pour plusieurs podcasts, mais là, sur quel coup tu travailles maintenant?
Présentement, je suis en train de faire des illustrations avec Pad que j'ai eu il n'y a pas longtemps, avant les fêtes. Puis j'essaie d'envoyer tout ce que j'ai mes dessins qui sont finis à partir de ce pad-là, mais ça fait 2 jours que j'essaie d'envoyer ça, puis j'arrive même pas. Je pense que si je le répète dans mon comme je le faisais, ça serait rendu déjà. C'est un peu ça. Sinon, là, je m'en vais au musée d'Odanak pour aller voir l'exposition. J'ai des personnes qui viennent voir l'exposition. Je m'en vais justement les rencontrer, tout ça. C'est ça. Mais, en tout cas, la discussion, j'aime beaucoup, mais il fallait que je vous quitte à cause de ça aussi, puis on se reprend.
Chloé. Mais avant de partir, parle-nous de cette exposition rapidement au musée d'Odanak, tu es là avec plusieurs autres artistes, et alors il faut aller voir cette exposition.
Oui, il faut aller voir, mais ça finit le 17 bientôt, sinon on essaie de l'amener un peu comme le film partout au Québec, pour justement sensibiliser les gens, alors c'est un travail à faire. Ouais.
Bon, ben, on va en prendre bonne note à terre en vue.
Ouais. Puis, Osim, pour ton. Tu viens de sortir la musique, là?
Ouais, effectivement.
Ouais. Parle-en.
Ouais.
Bon, pour moi, je vous quitte. Puis, à bientôt.
Et what, Jacques? Ouais. Sachez.
Sachez. Ouais, comme Jacques l'a mentionné, la semaine passée, on a sorti un album. C'est plus. On fait de la musique. On essaie d'intégrer la musique autochtone dans notre genre musical qui est plus, qu'on s'inspire plus de la musique électronique française. Puis on essaie d'intégrer tout ça avec un peu de guitare, c'est pour jouer en live, pour qu'il y ait du visuel aussi.
Son band s'appelle Red Rockers.
Non, ouais, c'est Red Rockers, avec un Z à la fin.
J'ai mis le lien dans les commentaires.
D'accord.
Bon, ben ça aussi, on en prendra bonne note à terre en vue, hein, parce que
ouais.
on, On a un festival qui s'en vient bientôt, en fait, cet été au mois d'août, et il revient chaque année. Alors, c'est là aussi, c'est une occasion de diffusion et de rayonnement pour les cultures autochtones. Alors, on y travaille fort présentement et ce sera donc un rendez-vous. Je rappelle à ceux qui veulent écrire à leurs députés, dire, rappeler que le financement est important pour présence autochtone parce que comme c'est là, il y a des coupures qui nous ont été annoncées du côté de patrimoine canadien, donc écrire aux députés fédéraux parce que ça, on essaie au moins on voudrait progresser, qu'on en aille plus, mais on aimerait à tout le moins ne pas être coupé. Alors donc, ça, les pressions sont utiles. Déjà, la ministre, enfin, le bureau de la ministre m'a écrit pour me dire de ne pas désespérer. Alors, ce qui veut dire que juste un petit mail, ça peut faire parfois une grosse différence. Alors, c'était aussi le message que je passe. Et puis, bien sûr, il va falloir rester à l'affût parce que bientôt, dans les salles, on pourra voir Soleil Atikamekw, le film qui, on l'espère, aura un impact majeur et qui sera vu par, et que les gens feront mentir les pessimistes qui disent que les sous-titres, ça rebute le public. Je pense que les gens, une fois qu'ils ont fait le pas, ils sont heureux d'entendre les langues autochtones parce que on les entend pas assez, on les entend pas souvent. Puis, les gens aiment bien avoir cette immersion dans quelque chose qui est très intimement lié à l'histoire du territoire qu'on partage aujourd'hui.
Oui. Vous allez être où le 5 avril, quand il va y avoir le film qui va être projeté?
On travaille en ce moment à préparer une première, mais je ne l'ai même pas encore annoncé, en fait, là, parce qu'on attend la confirmation de la salle de cinéma, mais normalement, si tout va bien, le 5 avril, on est à Joliette, parce que c'est la salle de cinéma le plus près de Manawan. On essaie de travailler à organiser une soirée autour d'une thématique qu'on va vous révéler. Ben, en fait, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. C'est pas un secret pour personne, là, mais on essaie d'inviter plusieurs intervenants du milieu pour parler pour parler des ponts qui ont été créés depuis ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan, puis où est-ce qu'on en est rendu et tout. Fait que, en tout cas, ça va être notre première. Ensuite, le 6, normalement, on devrait être au Cinéma Beaubien à Montréal. Et le 8, j'espère que mes acteurs vont vouloir venir jusqu'à Trois-Rivières, au Tapis Rouge. Mais tout ça, c'est en train de s'organiser, là. On est un peu tôt dans le processus, là. Mais normalement, ça serait ça, le plan.
Fait qu'il va y avoir un Tapis Rouge, là. Il va-tu avoir un Tapis Rouge à Joliette?
Peut-être.
Lequel qui va avoir un Tapis Rouge? Comme ça, je vais pouvoir y aller.
Viens au 3, pourquoi pas. Mm. Mais c'est ça, donc je vais essayer d'organiser une petite tournée des cinémas, ça serait intéressant, mais il faut en parler avec tout le monde, puis voilà.
Mm. Alors, ben écoute, on va faire... nous y serons, hein, aux premières, et on va propager la bonne nouvelle dès qu'on aura des dates, des lieux plus précis. Alors, merci Hachim. Merci Chloé. Hachim, est-ce que tu voudrais avoir le mot de la fin?
Oui, c'est cute. Moi, j'aime. Merci de nous avoir invités. Comme Chloé l'a mentionné, moi, je vais être présent aux trois représentations du film, du 5 au 8 avril.
Bon, alors pour pouvoir serrer la main à l'une des vedettes du film, Hachim, ça vaut la peine d'aller aux premières.
Ouais. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Mais merci d'être avec nous, Hachim et Chloé. Puis on va aller voir le film, puis pour les autres, mais revenez nous voir la semaine prochaine pour la prochaine invitée.
Oui, sur la rue Adadegan.
Ouais. Merci.
Merci.